Salut, c'est Champ Libre. Champ Libre numéro 655, un Champ Libre de mai, un Champ Libre avec Laurent à la technique, comme d'habitude. Je pense qu'il est là, je le vois derrière la vitre. J'ai peur. Et un Champ Libre, troisième mercredi du mois, donc en principe, normalement, lorsque tout va bien, c'est un Champ Libre avec des invités. Un invité qui nous parle de cinéma, un invité qui nous parle de musique métallique. Ce soir, j'avais des doutes parce que il a fallu que j'attende le milieu d'après-midi pour qu'on donne la liste du nouveau gouvernement. Et j'avais peur que mes invités aient été nommés. Eh ben, rassurez-vous, non, ils sont là.
Oui, présents, bien présents.
Pas de ministère de la
Culture.
Non,
un peu déçu, mais bon, tant pis, c'est pas grave.
Tant pis. Damien.
Le jour où il y aura un ministère du métal, je serai élu, mais là, non.
La métallurgie. Non.
On cycle comme on peut, hein.
Ok. Voilà, donc un Champ Libre, comme d'hab, avec du cinéma dans quelques minutes, et puis de la musique,
enfin,
des choses un peu électriques. Et puis je vous parlerai également de littérature à la fin de l'émission. On va commencer en musique avec un album que vous avez déjà écouté une fois dans cette émission. C'est le Brood X de Boss Hogg. Donc Damien, tu connais Boss Hogg, le groupe de monsieur
John Spencer et sa
madame,
femme.
Voilà, dont j'ai oublié le nom de sa femme. Plus un ou deux potes à la batterie et à la basse. Elle s'appelle Christina Martinez, madame.
Effectivement, oui.
John Spencer. Voilà, un très bon disque, le Brood X. J'aimerais bien que le groupe passe de par chez nous, parce qu'il paraît que sur scène, ça dépote sacrément. Avant d'écouter le Boss Hogg, je voudrais simplement rendre un hommage à un monsieur qui a disparu beaucoup trop tôt la semaine dernière. Il s'agit du bassiste du groupe Grand Daddy. Et du coup, la tournée américaine, la tournée mondiale de Grand Daddy est annulée. Voilà, j'attendais ça depuis, je ne suis pas le seul, depuis déjà quelques années. Donc, vous êtes au courant, le concert du Transborder de début juin, il n'y en aura pas. Allez, on écoute Boss Hogg, Rodeo Chica.
You know how when you ask a question, goes up at the end. Listen to this. What?
Pick it up, Chica. We got to
go.
This ain't no team dance, no rodeo. Stereo Terra. Now feel that pitch. I keep it on lockdown. Pack it up quick.
Bitch. Cause live, you know, you have to get the extra entertainment.
Entertainment? Extra?
Uh-huh, let me show you how it's done, son.
Oh, you're gonna show me?
Here you go.
Dig that monkey, trying to sing. Crack the jack, roll the old diamond ring. What's wrong, baby? Everything. What's wrong, baby?
Everything.
Pick it up, Chica. Baby, you better.
Uh-huh.
shit is on lockdown. It's a now or never.
Come on, chica.
Chica. Venga.
Venga, chica, con me.
Big that train coming round the bend. Night sweat, hot flash, moon changing. What's wrong, baby? Everything. What's wrong, baby?
Well, everything. We're on the clock. We've got to rock. You're on the clock. You gotta rock.
Hey, oh, we're on the clock. Pick it up, Chica. We got to go. This ain't no mud club. This ain't no rodeo. No flea market. No antique show.
We're gonna knock it out of the park.
Ripped on the reeds and faded blue jeans. Pick it up now, baby. Let's split this scene. Come on, chica, venga.
Venga, chica, con me.
Ho!
This is what I meant to say.
Boss Hog Rodeo Chica, l'album s'appelle Broad X et c'est un très très bon disque. Joe, tu veux nous parler de Petite Bête?
Une bébête qui monte, qui monte, qui monte. Et en l'occurrence, l'événement majeur pour les fans de cinéma fantastique et pour la saga Alien en particulier, donc le fameux Covenant, bien évidemment. Bon, déjà, après une quadrilogie mythique inégale, mais dans l'ensemble réussie, et une franchise Alien vs Predator si mauvaise que je ne devrais même pas la mentionner. Ridley Scott était heureusement revenu aux affaires avec le préquel Prometheus en prenant une autre direction narrative. Exit les aliens pour l'instant. Cette fois, c'est la bonne. 38 ans après, Ridley Scott se réapproprie la créature pour nous présenter un film assez surprenant. Aux allures de faux remake, plus profond qu'il ne peut sembler au premier abord. Alors bon, passons outre hein, les mauvaises critiques, les spectateurs mécontents, pas assez de sang, pas assez d'horreur, donc surtout mal orientés au départ par une multitude de trailers trompeurs et mensongers. Ainsi, les demandeurs de sensations fortes d'hémoglobine de Saint-Choc resteront sur leur faim, il faut le dire tout de suite, car Alien Covenant n'est pas si effrayant, mais tout à fait fascinant, voire passionnant. Tout d'abord, Ridley Scott ne s'intéresse à la bête que de loin. Le pitch de départ est conventionnel et relève, il faut le dire, de la recette. Hein. Les astronautes répondent à un signal de détresse, débarquent sur une planète hostile, trépassent un par un, donc ça rappelle effectivement le film de 79. Mais le réalisateur soulève quand même une étonnante question. En l'occurrence, comment revisiter une œuvre, comment refaçonner son bébé quasi-quadra, devenu mythe cinématographique pour le déconstruire, le remodeler, lui redonner vie. Et à travers ce film, au demeurant très soigné, plutôt brillant, Ridley Scott dialogue avec la propre mythologie qu'il a lui-même créée et montre davantage une monstruosité trouvant son origine dans l'homme, vile créature jouant à être Dieu, dont les créations entraînent inéluctablement des dommages collatéraux. Ainsi, le personnage très intéressant, le plus intéressant, le personnage de l'androïde David, personnage déjà central de Prometheus et Dr. Frankenstein du futur, s'émerveille de sa faculté de créer, d'atteinte, de perfection. C'est là une fabuleuse mise en abîme du travail de Ridley Scott, une réflexion étonnante sur l'art, l'artiste et sa création. Prenons l'exemple de la première scène, superbe, où l'androïde David, en présence de son créateur, contemple la nativité de Piero della Francesca en jouant l'or du Rhin au piano de Wagner, avide de découvertes. Cette scène est une merveille de scène gigogne au sens multiple qui trouvera une puissante signification par la suite. J'abandonne le spoiler, hein, je ne veux spoiler personne pour l'instant. Comme ces personnages hybrides étranges, Alien Covenant est une déclinaison du chef-d'œuvre de 79 où la peur ici n'est pas tant due à l'apparition de l'alien, plutôt attendue, qu'à la volonté des humains et humanoïdes à modeler, telle une glaise funeste, une nature qu'ils ne maîtrisent pas. Ce futur incertain démontre surtout une grande noirceur et un pessimiste criant sur l'artificialité de l'esprit collectif au profit d'un but individuel retors, impitoyable et apocalyptique, sans pitié pour l'avenir de l'espèce humaine. Alors, rassurons quand même les futurs spectateurs, le film possède toutefois quelques scènes pouvant affoler votre tensiomètre, mais il est surtout bon de constater que le cinéma de genre, surtout fait par des artistes tels que Scott, calibré aujourd'hui pour les multiplex, que ce film-là peut encore offrir simultanément la possibilité de se divertir, de prendre une claque visuelle et également de réfléchir.
Merci Joe pour cette chronique. On parle un petit peu de ce film et puis de la bébête également.
Oui.
Il ne devait pas y avoir une sorte de suite parce que ce film est dans la continuité du Prometheus.
Très juste. Alors ce
et
film.
Il devait y avoir une.
Alors tout
une
à fait.
Suite aux aliens.
Tout à fait. Bébête. Exactement, parce que Prometheus est dans la continuité de Alien Covenant est dans la continuité de Prometheus et Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9 de Chappie et d'Elysium, voulait lui faire un Alien 5 et pour le coup Ridley Scott ne voulait surtout pas se laisser déposséder de cette franchise et il semblait beaucoup plus cohérent pour lui de montrer les origines de la bête et surtout de prendre une nouvelle direction. Donc excite ce projet qui devait être produit par Ridley Scott et à partir de là Ridley Scott après Prometheus a pris définitivement la production en main et notamment Alien Covenant qui sort aujourd'hui et dans 2 ans Alien Awakening qui devrait faire le pont entre ce film là et le 8e passager en fait pour le coup.
D'accord. Parce que donc le film qui est annoncé, on se demandait bien comment ils allaient pouvoir
ressusciter
la bête.
C'était un petit peu curieux parce qu'effectivement le Alien 5, hein, tu veux parler ?
Oui,
Alien 5, surtout que ça reprenait en fait un scénario entre le 2 et le 3, donc il fallait faire revenir. Alors on sait que les technologies peuvent faire beaucoup de choses aujourd'hui, mais il fallait faire revenir Sigourney Weaver et le Michael Biehn, les deux acteurs d'Aliens finalement. À leurs âges respectifs de l'époque, donc ça aurait été un petit peu compliqué.
J'ai lu également que Ridley Scott reconnaissait comme faisant partie de la saga le numéro 2, le Cameron.
Oui.
Tant décrié par les fans.
Décrié, mais il garde quand même un esprit et surtout la continuité du premier. C'est-à-dire que d'un point de vue strictement narratif, il est quand même assez fort, assez puissant. Et au niveau de l'ambiance, c'est quand même un film qui est brillamment réalisé. Après, c'est vrai qu'on est plus dans le genre action plutôt que de
film
c'est fantastique. C'est beaucoup moins philosophique. Mais James Cameron a fait du James Cameron, c'est-à-dire un cinéma beaucoup plus basé sur l'action tout en restant, tout en faisant preuve quand même d'une certaine maestria dans la réalisation. Alors, il y a des détracteurs. Après, d'un point de vue strictement... artisanat à proprement parler, ça reste quand même très réussi. Pour ma part, en tout cas.
Damien, je crois que tu fais partie de ces êtres étranges qui n'ont pas vu les aliens précédents.
C'est malheureusement l'un des gros points faibles de ma cinéphilie.
Tu as vu le numéro 2 ?
Non.
Non ? Ah bon. Okay. Donc, il faut que tu rattrapes ton retard.
Ce sera fait.
Pour la prochaine fois.
Pour le prochain Alien, on en reparle.
Donc, ouais, il faudrait que tu vois le premier, hein, d'abord celui de 79, qui est juste un immense film, l'un des plus grands films fantastiques.
On discutait avec Damien tout à l'heure avant l'émission, c'est là que il a fait son coming out en me disant qu'il n'avait encore jamais vu de Alien. Il avait peur d'être très déçu parce que regarder Alien sur un écran de télévision, même avec des écrans 16/9 aujourd'hui, c'est quand même le type de film qu'il faut aller voir au cinéma.
Au cinéma. Alors, pour le coup, je ne sais pas si elle est passée ou pas, mais l'Institut Lumière réorganisait donc 2 ans après le Festival Lumière qui avait diffusé une nuit Alien. L'Institut Lumière proposait une nuit Alien et effectivement, c'était une excellente opportunité de découvrir ces films-là. Et s'il existe des films à voir en salle, et notamment le premier, le 8e passager de Ridley Scott, qui est un bijou qu'il faut absolument voir en salle de par le travail d'ombre, de par le design de Hans-Rudi Giger, qui nous a quitté d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, tout ce travail technique, pictural, et surtout d'épouvante et de mise en scène, et ses personnages, même les acteurs qui sont tous brillants de bout en bout, le film est une réussite totale. Et si vous pouvez revoir le film de 79, même avant d'aller voir le film, le dernier Covenant, pour voir à quel point Ridley Scott a su décliner son œuvre de manière, manière
ou alors
intéressante.
Il faut, investissez dans les très très grands écrans
et voilà
un beau salon,
un très beau salon.
Et, tiens, tu parlais de Monsieur Guiguère tout à l'heure, ce peintre sculpteur qui avait travaillé pour le Dune de Jodorowsky.
Exactement.
Et finalement, les sculptures avaient atterri dans le premier Alien.
Et dont Ridley Scott s'était servi d'ailleurs pour retravailler sur Prometheus, en fait. Pour le coup, il a repris certaines planches.
Est-ce qu'on trouve encore des traces dans le nouveau ?
Oui, alors, à ma grande surprise, oui. On voit des esquisses. Je ne révélerai pas plus, parce que sinon, ça va se spoiler. Mais on voit des esquisses des aliens de Giger, tout à fait. C'est un film très étrange. Et on éprouve un immense plaisir à voir ça. Il y a plein de clins d'œil également au film de 79. Et c'est vraiment une très, très grande réussite de ce film.
Film Alien, en tout cas le numéro 1. Dont il faut rappeler également qu'il a eu une influence terrible, dominante pendant des années, encore aujourd'hui, sur l'esthétique et les contenus de la plupart des films fantastiques.
Oui, bah disons qu'à l'origine, Ridley moderne. Scott voulait à l'origine faire plus du Star Wars. Il avait des problèmes de faire. Il avait le projet de faire du Star Wars et de faire un film beaucoup plus bon enfant. Et il a été tellement dévasté qu'il a décidé de faire quelque chose complètement à l'opposé et de proposer un film beaucoup plus sombre, avec effectivement des idées de mise en scène, de travail avec le décor, la lumière, qui ont inspiré énormément de personnes, de réalisateurs depuis, oui.
Ok, donc allez voir Alien. Top
Oui, il faut. Et puis à noter deux petits numéros de Mad Movies sur la saga Alien et l'écran fantastique sur un très très bon article sur Alien Covenant. Donc pour donner une introduction, mais oui, absolument aller voir Alien Covenant. Oui.
On écoute un petit peu de musique. Je vous propose un titre intitulé The Sinner, extrait d'un album qui s'appelle Rust and Gold. Le groupe. Oui, c'est un groupe, c'est Isaac Delusion. J'ai pas beaucoup d'infos sur ce groupe, si ce n'est que je crois que c'est un groupe parisien. What is wrong, baby? See you.
champ libre, le favori.
Ben écoutez, il n'y a pas de raison que ça change. Le favori de l'émission depuis déjà quelques semaines, c'est la réédition d'un petit chef-d'œuvre de M. John Asherton. Ça s'appelle God's Clown. Et John Asherton, qui, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, est franco-français, tout ce qui est plus franco-français. Il a joué dans un groupe qui s'appelait les Froggies il y a très très longtemps, les Froggies dans la lignée des Dogs de Rouen. Et l'album donc de John Asherton, God's Clown, est réédité par nos amis, je suis fier, du label Pop the Balloon, installé à Bron dans le 69. Donc précipitez-vous, John Asherton.
Yes, she was so fragile, dragging men down to her feet to unleash them on the street. Sally was just 16, best idol on the scene, elected by the fans, singing in a rock and roll band. Sally was like a dream, surreal and yet unseen. Her face like a desert night, she wore her jeans too tight. Sally was no angel, looking for hearts to mangle. Used to eat them on the plate, Sally was my steady date. Sally was like a dream, so real and yet unseen. A face like a desert night, she wore her jeans too tight. A face like a desert night, she wore her jeans too tight. Sally was like a dream, surreal and yet unseen.
Sally was no angel, John Asherton, le favori de l'émission Chant Libre sur les ondes de Couleur FM. Mais il est temps, bah, c'est pas tout à fait le même style de musique, je crois, celle dont tu vas nous parler, Damien.
Et non, chers auditeurs, mauvaise nouvelle, pas de nouveauté métal ce mois-ci, mais plutôt une réédition un peu particulière. Alors, un peu de contexte s'impose. En 2010, le groupe norvégien Dimmu Borgir sortait Abrahadabra, un album qui allait les faire connaître à une échelle rarement atteinte par un groupe de metal extrême jusque-là, tout en étant décrié par une partie de leurs fans, puristes du black metal, qui trouveraient l'album trop symphonique. Cette année, donc en 2017, Dimmu Borgir va encore plus loin en proposant Forces of the Northern Night, un disque proposé sous différents formats, qui va du double album au coffret 9 CD en passant par le double DVD. Pour ma part, je me concentrerai sur le double album qui propose la captation live de Abrahadabra et d'un concert donné au célèbre Wacken Open Air Festival, donc c'est le Graal de tout fan de métal qui se respecte avec le Hellfest. Et ces deux prestations ont été enregistrées alors que le groupe était accompagné de l'Orchestre Symphonique d'Oslo. Pour se mettre dans le bain, on va écouter tout de suite Gateways, tiré du premier CD, celui dont je vais faire la chronique.
Nästa låt ut, Gateways.
Gateways donc. Alors l'album démarre avec Xibir, un instrumental joué ici par l'orchestre et un chœur, une jolie porte d'entrée pour la suite qui sera plus extrême et qui permet d'entendre un public déjà chauffé à blanc et qui le restera tout le concert. Ce qui doit être assez impressionnant sur le DVD, j'aimerais bien voir les images. Les choses sérieuses commencent ensuite avec Born Treacherous, un morceau violent porté par un ensemble de cordes qui lui donne une dimension fière et triomphante, une grande leçon de métal puissant. Alors on l'écoutait à l'instant, Gateways était déjà le moment fort d'Abracadabra. Il sera aussi celui de Forces of the Northern Night, peut-être même encore mieux, puisque la choriste de Dimmborgir est plus agréable à écouter, passant d'un chant agressif en studio à un chant plus symphonique en live. A noter que Chagraff, le frontman du groupe, fait ici du death metal plutôt que du black, c'est-à-dire qu'il chante plus grave que d'habitude. Sur les premiers albums, il a une voix beaucoup plus aiguë. Mais bon, ça, ce sont des considérations de métalleux avertis. Et justement,
très bien d'avertir.
Donc, voilà. Non, mais il y a un vocabulaire particulier, il faut le savoir. Il faudrait faire un cours, mais on n'a pas le temps. Justement, on parle de métal, mais le métal laisse désormais la place au classique, avec une version instrumentale de Dimmborgir, la chanson cette fois-ci, tout en nuances, passant d'un début apaisé et presque reposant, osons le mot, à un final épique digne de la BO du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, ça tombe bien puisque sur la pochette du disque, la créature ressemble sérieusement à un Nazgûl. Et même si elle crée une sensation de déjà-vu durant les premières secondes, la version métal, cette fois-ci, de Dimmborgir, qui fait suite à celle de l'orchestre, permet à la fois de faire la différence entre les travaux des deux formations, tout en notant les similitudes frappantes entre le métal et la musique classique. Avec le début extrême de Chess with the Abyss, Dimmborgir, que ce soit volontaire ou non, fait taire les critiques qui accusent le groupe d'être devenu commercial, même s'il faut avouer que le côté symphonique place le groupe en rupture avec ses débuts. Comme quoi, même dans le métal, on crie au mainstream dès que ça commence à se vendre un peu. C'est un autre débat.
Tout le monde a ses conservateurs. Hein.
On fait ce qu'on peut. Ritualist, quant à lui, est peut-être le morceau qui permettra à un mélomane non averti de mieux se familiariser avec cette branche du métal, car il allie la vélocité des guitares saturées à des chœurs dignes d'une messe noire. Ce n'est pas le cas en revanche de A Jewel Traced Through Coal, pas un titre évident à prononcer, excellent morceau black qui se distingue des groupes canons du genre seulement par quelques incursions symphoniques, notamment au milieu du morceau, qui permet au batteur de s'illustrer par quelques double breaks, même si je ne m'y connais pas tellement en batterie. Et d'ailleurs, il faut noter que si le bassiste est quasiment inexistant, le batteur fait en revanche un travail absolument phénoménal. L'album se termine par une version orchestrale de Eradication Instincts Defined, une chanson parue sur l'album Death Cult Armageddon, sorti en 2003. On ne pouvait décidément rêver meilleure conclusion, vous comprendrez pourquoi en l'écoutant tout à l'heure. Alors, je ne m'attarderai pas sur le live de Wacken, c'est-à-dire le deuxième CD de l'album, qui brasse des chansons de plusieurs époques du groupe en bénéficiant des mêmes qualités que le premier CD, donc celui dont je viens de parler, mais qui souffre d'un défaut majeur. On entend trop peu la voix du chanteur Chagraff. Alors, c'est un problème qui est...
Est-ce qu'elle est trop aiguë ?
Non, justement, elle est trop grave. Enfin, en fait, c'est un problème qui est... régulier en festival, que ce soit au Hellfest ou au Wacken, où on n'entend pas assez les chanteurs. Et là, c'est le cas aussi. Et pour un live qui allait sortir en CD, on aurait pu penser qu'ils l'auraient corrigé au mixage.
Ouais, ce qui est étonnant, parce que souvent dans les concerts de variété, on entend trop le chanteur.
Et ben, dans le métal, en fait, les instruments jouent tellement fort que ben, le chanteur, s'il n'y a pas un bon mixage, on l'entend pas assez. Alors, bon, pour conclure, vous l'aurez compris, j'ai aimé cet album. Mais au fond, la question n'est pas de savoir s'il est bon ou non, mais plutôt à qui s'adresse-t-il ? Alors, aux fans, évidemment. Les autres pourront se dispenser d'acheter une deuxième fois Abracadabra. Et puis, alors, les fans extrêmes pourront carrément acheter le coffret 9 CD. Les fans plus modérés.
C'est un groupe qui a une notoriété très très importante chez lui. Chez nous, dans le monde entier.
Eh ben, je dirais,
parce que pour sortir un coffret 9 CD, quoique si, je connais des groupes méconnus et des fans extrêmes dans tous les domaines.
Alors, Dimmborgir, c'est justement un cas un peu particulier. Je le rapprocherai d'un autre groupe qui s'appelle Cradle of Filth. En fait, c'est deux formations qui ont commencé dans le métal vraiment extrême. Et leurs premiers disques sont pas écoutables comme celui-ci, mais qui finalement, avec le temps, ont rajouté des éléments symphoniques qui les rendent plus accessibles. Ce qui fait que même quelqu'un qui est pas du tout Overti, et justement je parlerai ensuite, peut apprécier ces disques et est entré dans l'univers du groupe. Mais et c'est ça qui a permis de les rendre plus connus, de sortir de la scène extrême qui est pas si connue en dehors de ses adeptes. Et justement, ça a permis de les rendre connus. Pas forcément aux États-Unis, mais oui, à l'échelle européenne, je pense qu'ils ont une notoriété suffisamment grande, plus particulièrement dans les pays du Nord, où le métal est beaucoup plus accepté socialement qu'en France. Mais ils ont une notoriété suffisante pour sortir un coffret 9 CD.
Coffret.
Et justement, avec un tel album, je conseillerais surtout d'écouter Forces of the Northern Night à ceux qui aiment la musique classique tonitruante, aux fans de la Carmina Burana ou de l'Antre du Roi de la Montagne, à ceux qui voudraient entrer dans le monde du métal extrême par une porte plus facile d'accès, en somme. Voilà, donc si vous aimez la musique classique, ben, tentez le coup, vraiment, écoutez Dimmu Borgir, écoutez Cradle of Filth, et ça peut vous plaire. Et une dernière chose, j'en profite pour souligner que le label du groupe, Nuclear Blast, fête cette année ses 30 ans, et se révèle être un des labels de métal les plus intéressants du moment, avec des groupes tels que Behemoth, Meshuga ou encore Korpiklani, qui est un de mes groupes préférés.
On écoutera bientôt. Donc.
Et donc, pour les 20 ans, le label avait sorti une compilation, et donc pour les 30 ans, on peut espérer qu'elle fera la même chose. Affaire à suivre. Ah, donc on écoute tout de suite Eradication Instincts Defined, un morceau qui n'a rien de métal, mais plutôt classique, un poil violent.
Thank you.
Comment il s'appelle ton...
Alors je rappelle Dimmu Borgir, du nom d'un volcan en Norvège, oui je crois. Voilà, donc ça s'appelle Forces of the Northern Night, et le morceau c'était Eradication Instincts Defined.
Et c'était du metal symphonique. On parle de littérature, deux livres pour ce mois-ci. Le premier, c'est un livre qui est sorti chez Albin Michel. Il est signé de Nick Toschies. Bon, les fans de l'émission connaissent Nick Toschies puisqu'il a écrit pas mal sur la musique rock, sur Bob Dylan, sur Dean Martin, Jerry Lee Lewis, etc. Et je vous en ai parlé souvent puisqu'il a écrit déjà 4 romans. Ça, c'est le quatrième. Alors, celui-ci s'intitule « Sous Tibère ». Tibère, empereur
romain.
Donc, ça se passe sous Tibère. Je vous raconte les 4 premières pages. L'auteur Nick Toschies, c'est pas vrai, hein, c'est un roman. L'auteur Nick Toschies va dans la grande bibliothèque du Vatican pour... récupérer des informations en vue d'un travail sérieux qu'il a à accomplir. Comme les documents qui sont dans la grande bibliothèque du Vatican sont surveillés comme du lait sur le feu, on lui adjoint un curé, un moine, un peu poussiéreux, comme tout ce qui peut se trouver à l'intérieur de la bibliothèque. Et il découvre que ce moine un peu poussiéreux, c'est un passionné de l'histoire de l'Église. Et en furetant à l'intérieur des étagères de la bibliothèque, il tombe sur des planches et il découvre que ces manuscrits sont des manuscrits qui auraient environ 2000-3000 ans. Et sur la première page, il voit quoi ? C'est écrit en latin, il voit le mot « Christ » et plus loin « Jésus ». Donc tout de suite, le moine poussiéreux est intéressé et discrètement, il prend le document, il le met dans son attaché-caisse. Nick Toschies est là, il est témoin de la chose. Bon, voilà, il termine sa visite et il s'en va. Quelques semaines plus tard, Nick Toschies est invité par le moine à le rencontrer, mais pas au Vatican, le plus loin possible du Vatican, dans Rome, mais dans un bistrot discret. Ils se rencontrent et le moine, très inquiet, il a l'impression d'être surveillé, remet à Nick Toschies les photocopies du document avec un début de traduction. Nick Toschies va donc entreprendre la traduction complète de ces documents. C'est le livre que j'ai dans la main actuellement. Ça s'appelle « Sous Tibère ». Et c'est signé par Nick Toschies. Alors, ça raconte quoi, ce document ? C'est un riche aristocrate romain, Gaius Fulvius Falconius, qui écrit. Il écrit à son petit-fils. Il lui dit, voilà, pendant longtemps, j'ai travaillé avec Tibère, c'était moi qui écrivais ses discours. Déjà, à l'époque, il y en a qui écrivaient les discours des puissants. Bon, Tibère, c'est un mec complètement fou. Pendant des années, j'ai gagné beaucoup de sous, je lui ai écrit n'importe quoi. En fait, c'était moi qui parlais, mais lui qui récupérait la gloire, jusqu'au jour où je tombe en disgrâce. Et comme je suis en disgrâce, on m'exile en Judée. J'arrive en Judée le soir dans une rue sombre d'un petit village où je viens d'accoster. Et je repère dans l'ombre un jeune vagabond juif sans foi ni loi, armé d'un couteau, qui veut certainement me faire la peau. Je me défends et je constate que ses yeux sont magnifiques et qu'il a une force terrible. Je lui demande comment il s'appelle. Il me dit « Je m'appelle Jésus ». Et là, Gaius Fulvius a une idée géniale. Il se dit « Ce mec-là a un charisme certain ». Avec ma propension et mes qualités d'écrivain, de discours et tout, on va monter une grosse arnaque qui nous permettra de devenir riche. Donc il dit à Jésus, on sera riche, on retournera à Rome, on va... Voilà. Donc, écoute, dans l'histoire de ton peuple, dans le livre, de ton peuple, il y a des prophètes et des trucs comme ça. Pourquoi on créerait pas une espèce de prophète ? Voilà, ça commence comme ça. Je vous le dis tout de suite, ça finit à Jérusalem. Et l'arnaque fonctionne encore aujourd'hui. Voilà, je vous conseille de lire.
C'est vrai que ça a l'air d'être un livre littéralement passionnant. Moi, j'en ai entendu que des
ou comment très bonnes choses. Un escroc peut être dépassé par son personnage au point de finir sur une croix.
Et de perpétuer son mythe des années après.
Voilà, donc, alors moi, il y a juste un petit commentaire que je voulais faire sur ce bouquin que j'ai adoré. En d'autres temps, il y a quelques années, on aurait mis le feu au livre et à l'Itoshisa. Ouais. Je pense au bouquin de Rushdie ou au film Le Dernier Testament
Tentation du Christ de Kazantzakis. Ouais.
Voilà, premier livre, Nyctochis, Albin Michel, Sous Tibère. Deuxième livre, ça s'appelle Bob Dylan électrique, Newport 1965, du folk au rock, histoire d'un coup d'État. C'est chez Rivage Rouge et c'est signé Elijah Wald. Ah, vous allez me dire encore un bouquin sur Dylan et encore un bouquin sur Newport 65. Bah, figurez-vous que là aussi, je me suis fait happer par le sujet. Oui, ça parle de Bob Dylan. Bob Dylan est le personnage central. Festival de Newport. En fait, c'est Newport le personnage central. Et ça nous raconte comment, avant 65, un monde d'artistes folk entièrement tourné vers le passé, c'est-à-dire essayer de préserver ou de reprendre une musique traditionnelle, les chants des esclaves dans les champs de coton, mais également des bûcherons en train de couper des bûches. Toute cette musique qui a été portée par Alan Lomax, qui a enregistré ça dans les campagnes, qui a été interprétée par Pete Seeger. Comment cette musique-là est entrée en... Alors, une musique très, j'avais envie de dire, religieusement intégriste, très conservatrice, avec refus d'évolution. En tout cas, comment cette musique s'est affrontée à une musique qui était jugée comme commerciale, donc vile et perfide, et comment Bob Dylan commence avec un pied dans ce son-là pour finir par poser un pied sur un autre versant qui va être carrément atomisé sur toute la planète par une visite extraordinaire au milieu des années 60. Quatre mecs de Liverpool débarquent aux USA et les chanteurs folk habillés avec des chemises à carreaux, pardon, et des grosses patogas vont tous virer aux boots pointus, aux vestes en cuir et aux guitares Telecaster électriques. Alors oui, on connaît tous l'histoire du concert électrique de Dylan, mais l'histoire racontée dans ce bouquin, ça va bien au-delà de ça. C'est l'histoire d'une musique qu'on appelle le rock, qui devient adulte à ce moment-là, et qui, au lieu de chanter « je te prête ma voiture, tu m'attends ce soir, on ira danser », se met à découvrir des problématiques politiques, etc. Et comment le conservatisme va se retrouver balayé par un mouvement un petit peu plus progressiste. Voilà, donc précipitez-vous. Si vous voulez, moi j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert que c'est pas arrivé comme ça. Les choses se sont faites lentement. Et le monde moderne, en tout cas la musique rock moderne, est ce qu'elle véhicule. Lorsqu'elle véhicule encore quelque chose, doit beaucoup à cet instant magique où Bob Dylan, qui était attendu à la fois par les conservateurs, mais également par ceux qui avaient envie d'envoyer bouler tous les carcans, cet instant magique où Bob Dylan est arrivé sur scène en 65, je crois que c'est au mois d'octobre, avec une guitare électrique qu'il venait de découvrir. Il paraît que tout l'après-midi, il avait fait un boucan terrible parce qu'il avait enfin pu se brancher sur un ampli. Il est accompagné par les musiciens du Paul Butterfield Blues Band et ils vont trois titres, seulement trois titres, 25 minutes de concert, et ils vont soit percer les tympans des conservateurs et chambouler la vie des autres jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans le champ libre. Ça nous fait cet effet-là.
Il faut rendre hommage quand même à l'éditeur Rivage Rouge qui a l'habitude quand même de nous servir des petites histoires comme ça, assez savoureuses
c'est
en fait.
Une petite histoire, grande histoire.
Une grande histoire, mais bon.
Champ libre, c'est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve le mois prochain. Ce sera la dernière.
Absolument,
de l'année.
Oui, complètement.
Merci Laurent pour la technique. Alors, j'aurais pu mettre en illustration sonore de fin d'émission un titre du Bob Dylan à Newport. Bon, la qualité du son est moyenne. Il y a un film quand même, hein, un DVD plus exactement, qui rassemble tous les passages de Bob Dylan au Festival de Newport, c'est-à-dire 63, 64, 65. Je vous conseille de vous le procurer si vous aimez Dylan, parce que c'est quand même extraordinaire de voir ce gamin 63, qui s'habille comme un paysan du sud des États-Unis et qui chante des chansons folk type Blowing in the Wind, comment il va passer carrément à tout ce qu'il peut y avoir de moderne dans la musique rock aujourd'hui. En tout cas, écoutez les deux. C'est une tranche d'histoire américaine intéressante. Oui, donc j'aurais pu vous passer un titre du concert Newport. En fait, je décale de 6 mois et je vous propose d'écouter ce Bob Dylan-là, moderne, avec sa guitare Stratocaster sur le ventre, qui arrive à Paris. On est le 24 mai 1966 dans une salle de spectacle qui s'appelle l'Olympia. Là aussi, il va se faire siffler, huer, mais toute la tournée de 66, ça va être ça. Ça s'appelle Like a Rolling Stone. C'est Robert Zimmerman, alias Bob Dylan.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Okay, this next song now is dedicated to the Taj Mahal. Nobody's ever taught you how to live out on the street. Find that now.